Chapitre 6. La maquette holographique au 1/2000ème du Nouvel Éden occupait le milieu de la salle de conférence. Dans la plaine centrale de Rama, l'habitat terrestre s'étendrait sur 160 km² au pied des escaliers. Le modèle qu'ils avaient sous les yeux était de dimension plus modeste, et comme il s'agissait d'un hologramme, ils pouvaient le traverser de part en part pour apporter des modifications à l'aide d'un logiciel de CAO qui exécutait instantanément les ordres vocaux de l'aigle. « Nous avons encore changé d'avis », déclara Nicole dès l'ouverture de la troisième séance. Elle utilisa la torche à lumière noire pour désigner les bâtiments du cœur de la colonie. Après mûre réflexion, nous estimons que tout regrouper et entasser les humains les uns sur les autres serait une mauvaise solution. Mieux vaudrait répartir les habitations et les boutiques dans 4 villages au coin du rectangle. Le complexe central ne comportera que les immeubles communautaires, ce qui nous contraint à modifier le tracé du système de transport dont nous avons parlé hier, intervint Richard. De même que l'emplacement des jardins publics, de la forêt de Sherwood, du lac Shakespeare et du mont Olympe. Mais tous ces éléments ont leur place dans ce nouveau projet. Regardez ce croquis. L'aigle consulta la carte affichée sur l'écran du bloc-notes électronique.
J'espère que c'est la dernière modification importante, déclara-t-il. Nous n'en finirons jamais si vous reprenez tout de zéro à chacune de nos rencontres.
Nous sommes désolés, intervint Nicole. Mais nous n'étions pas conscients de l'importance de notre tâche. Nous assumons la responsabilité des conditions d'existence de 2 milliers d'êtres humains. Nous devons prendre notre temps.
Je constate que vous en avez profité pour agrandir les constructions communes, dit l'aigle. Qu'incluront-elles en plus d'une bibliothèque et d'un auditorium?
Un complexe sportif. Avec une piste, des terrains de baseball et de football, des cours de tennis, un gymnase, une piscine et suffisamment de gradins pour recevoir une grande partie de la population. Le sport devrait tenir une place prépondérante dans une société où la plupart des tâches seront exécutées par des biotes.
Vous avez également modifié l'hôpital et les écoles.
Il est indispensable de prévoir des salles pour les activités qui ne nous sont pas venues à l'esprit, répondit Richard. Pendant les 2 premières réunions, Richard et Nicole avaient été étonnés par la rapidité avec laquelle l'aigle traduisait leurs commentaires en instructions. À présent, son esprit de synthèse les surprenait moins que l'intérêt qu'il portait à des détails d'ordre culturel. Il les interrogea par exemple sur le sens et la signification du nom donné à la colonie. Il a fait l'objet d'un long débat, précisa Richard. Les suggestions étaient nombreuses et puisées pour la plupart dans l'histoire et la littérature de notre monde. Utopie venait en tête, suivie par Arcadie, Élysée, Paradis et Concorde. Mais nous avons finalement opté pour Nouvel Éden.
Voyez-vous, intervint Nicole, le jardin d'Éden aurait été un paradis luxuriant offert aux hommes par un Dieu tout-puissant, créateur de tout l'univers. La vie était censée y foisonner à l'état primitif. En un sens, le Nouvel Éden sera tout le contraire, une réalisation technologique merveilleuse, où la vie ne sera au début représentée que par une poignée d'humains.
Ils établirent les plans définitifs, puis se penchèrent sur des centaines de détails. Cathy et Patrick furent chargés de concevoir les parcs de chaque village. Ils n'avaient jamais vu un brin d'herbe, une fleur ou un arbre, mais ils avaient visionné de nombreux films et hologrammes. Ils présentèrent 4 projets harmonieux pour les 2,5 hectares de pseudo-campagne, de jardins et d'allées.
« Mais où trouverons-nous du gazon et le reste de la végétation ?»
demanda Cathy à l'aigle.
« Vos semblables apporteront des graines. Comment sauront-ils qu'ils doivent le faire ?»« Nous les en informerons. »
Ce fut également Cathy qui fit remarquer qu'il manquait au Nouvel Éden un élément capital.
Je n'ai jamais vu un zoo,
dit-elle.
Pourrons-nous en avoir un ?
L'aigle modifia le plan pour inclure un petit parc zoologique à l'orée de la forêt de Sherwood. Richard aidait l'aigle à résoudre la plupart des problèmes techniques. Nicole s'était spécialisée dans l'étude du cadre de vie. Elle avait éclaté de rire en découvrant le projet de maison unique doté d'un équipement standard que lui présentait l'aigle.
Vous connaissez bien mal notre espèce. Les humains ont besoin de diversité. Si tous les logements se ressemblaient, nos semblables auraient au fait de les personnaliser.
Leur temps était limité et elle opta pour 8 plans de base et 4 séries de meubles modulaires, ce qui offrirait en tout 32 possibilités d'aménagement. En adoptant des styles de façade différents pour chaque village, l'ensemble ne sombrerait pas dans l'uniformité. Richard et l'aigle arrivèrent rapidement à un accord sur les moyens de transport et de communication. Le système de contrôle de l'environnement et les biotes posèrent plus de problèmes. L'aigle avait l'intention de diviser la nuit et le jour en périodes de 12 heures. Le climat obéirait à des cycles programmés à l'avance et la température ne fluctuerait pas. Quand Richard réclama des variations saisonnières, l'aigle rétorqua qu'il faudrait pour cela augmenter l'importance des systèmes informatiques et modifier les algorithmes de surveillance, ce qui retarderait encore l'appareillage. Nicole apporta son soutien à son mari en faisant remarquer que le comportement des hommes, ce que l'intelligence nodale souhaitait étudier, était fortement influencé par ces facteurs. Ils arrivèrent à un compromis. La durée des jours et des nuits correspondrait toute l'année à celle d'un emplacement situé à 30 degrés de latitude sur la Terre, mais le climat varierait de façon aléatoire dans la limite d'une fourchette bien définie. Il était prévu de conserver les biotes déjà présents dans Rama. Richard et Nicole s'opposèrent à la présence des mille-pattes, des mantes, des crabes et des araignées.
Les cosmonautes envoyés explorer ce vaisseau ne sont pas représentatifs de notre espèce. Nous avions reçu un entraînement intensif, et je précise que certains d'entre nous ont été malgré tout terrifiés par vos serviteurs. La population du Nouvel Éden vivra dans l'angoisse si elle doit côtoyer ces monstres mécaniques.
Après de longues discussions, l'aigle accepta de revoir leur conception. Par exemple, les détritus seraient récoltés par des robots ressemblant à des camions de ramassage d'ordures dont l'aspect familier atténuerait la xénophobie des colons.
Et en ce qui concerne l'assistance quotidienne ?
Demanda-t-il à la fin d'une réunion.
Nous comptions utiliser des androïdes qui obéiraient à vos ordres verbaux et exécuteraient la plupart des corvées. Nous avons consacré de nombreuses heures à améliorer leurs caractéristiques.
Cette perspective séduisait Richard, mais pas sa femme.
Il est impératif qu'il soit immédiatement identifiable. Nul, pas même un petit enfant, ne doit risquer de les confondre avec des êtres de chair et de sang.
Tu as lu trop de romans de science-fiction ? Gloussa son mari.
J'imagine aisément la perfection des biotes humanoïdes qu'on peut construire ici. Je ne me réfère pas aux pâles imitations que nous avons vues dans Rama. Nos semblables seraient terrifiés s'ils ne pouvaient différencier un humain d'une machine.
Nous n'aurions qu'à limiter le nombre de modèles, proposa Richard.
Ça devrait suffire. Si tous les colons reçoivent une formation permettant de les identifier au premier coup d'œil.
Quand la plupart des décisions furent prises, Richard et Nicole retrouvèrent une vie de famille plus normale. Un soir, l'aigle passa les informer qu'on procédait aux derniers essais. La vérification des capacités des nouveaux algorithmes a gardé l'environnement du Nouvel Éden sous contrôle dans des conditions extrêmes.
Je précise que nous avons installé des convertisseurs gazeux dans la forêt et les parcs, sur les berges du lac et les flancs de la montagne. En attendant que des plantes terrestres prennent la relève, ces CG joueront le même rôle qu'elles en transformant le gaz carbonique en oxygène. Mais comme ils consomment de l'énergie,
la puissance mise à la disposition des humains sera réduite jusqu'au jour où la végétation remplira leurs fonctions.
Monsieur l'aigle,
dit Cathy,
ce que nous aimerions savoir, c'est quand nous partirons.
Je comptais vous l'annoncer pour Noël. C'est dans 2 jours seulement.
Dites-le-nous tout de suite, s'il vous plaît,
implora Patrick.
Eh bien, d'accord. Nous nous sommes fixés jusqu'au 11 janvier pour terminer les travaux d'aménagement de Rama. Vous embarquerez 48 heures plus tard, soit le matin du 13.
Dans seulement 3 semaines, pense à Nicole. Il me reste tant de choses à faire. Elle regarda Michael et Simone, qui étaient assis sur le divan.
En premier lieu, ma fille, je dois te préparer pour tes noces.
Dans ce cas, nous nous marierons le jour de ton anniversaire, maman,
dit alors Simone.
Nous avons décidé que la cérémonie aurait lieu 1 semaine avant votre départ.
Nicole baissa la tête pour dissimuler les larmes qui brouillaient sa vision.
Je ne suis pas prête à lui dire adieu. Je ne peux accepter de ne plus jamais la revoir.
Tous étaient dans le séjour et participaient à un jeu de société, à l'exception de Nicole, qui s'était éclipsée en prétextant l'étude d'un nouveau projet qu'elle comptait soumettre à l'aigle. En fait, elle souhaitait organiser son emploi du temps pour les 3 dernières semaines qu'elle passerait en ce lieu. Pendant le dîner, elle avait failli céder à la panique en songeant à tout ce qui lui restait à effectuer. Elle craignait de manquer de temps ou d'oublier une chose importante. Elle avait dressé une liste. Un nom venait en tête. Benji. Assise au bord du lit, elle se reprochait d'avoir tant tardé pour aborder ce problème quand elle entendit frapper à la porte. La coïncidence la surprit.
« Maman, »
dit lentement Benji, qui arborait un large sourire empreint d'innocence.
« Est-ce que je peux te parler ?»«
Bien sûr, mon chéri. Entre et viens t'asseoir près de moi. »
L'enfant l'étreignit avec force avant de baisser les yeux et de dire d'une voix hachée.
« Toi, Richard et les autres, vous allez partir bientôt, pour longtemps ?»«
C'est exact, »
répondit Nicole, sur un ton qu'elle voulait joyeux.
« Papa et Simone vont rester ici et se marier ?»
Benji avait redressé le cou et attendait une confirmation. Quand sa mère hocha la tête, des larmes brillèrent sur ses joues.
« Et Benji, que va devenir Benji ?»
Elle le serra contre elle et pleura elle aussi, furieuse d'avoir tant tergiversé.
« Il a tout compris immédiatement, »
se dit-elle.
« Et il a cru que personne ne voulait de lui. »
« Tu as le choix, mon chéri. Nous aimerions que tu viennes avec nous, mais ton père et Simone seraient également heureux que tu demeures auprès d'eux. »
Il la fixa en fronçant les sourcils, comme s'il doutait de sa sincérité. Elle répéta ses propos plus lentement.
« C'est bien vrai ? »
demanda-t-il. Elle hocha la tête avec vigueur et il sourit, avant de se renfrogner et de détourner les yeux pour ajouter.
« Je n'aurai personne avec qui jouer. Simone devra rester avec papa. »
Tant de concision sidéra Nicole qui déclara.
« En ce cas, viens avec nous. Oncle Richard, Cathy, Patrick, Ali et moi, nous t'aimons tous beaucoup. »
Il se tourna enfin vers elle. Des larmes striaient ses joues.
« Alors, je pars avec toi, maman. »
Il laissa reposer sa tête sur l'épaule de Nicole.
Il avait pris une décision,
se dit-elle en le serrant contre elle.
Il est bien plus éveillé que nous ne le pensions. S'il est venu me voir,
C'est uniquement pour s'assurer que nous voulions de lui.